Bonjour à tout le monde. Nous sommes ravis d'être de nouveau avec vous. Vous savez, quand on n'est pas là, ce n'est pas parce qu'on fait la grasse mat ou on est à la piscine, mais c'est parce que souvent je prêche ailleurs. Et la semaine dernière, Brigitte était auprès de notre fils à Douai, au culte à Douai, où elle a pu assister à un baptême d'un jeune Rwandais. Et c'était formidable de voir ce garçon accepter le baptême et s'engager avec le Seigneur. Et quant à moi, j'étais orateur un week-end d'église, une église de Marseille. Et le week-end a eu lieu au centre de Matania, qui est dans le Var. Et il y avait une quarantaine de personnes de l'église de Marseille, tous supporters de l'OM. Alors, je n'ai pas osé dire que j'habitais à 20 minutes à pied du stade de l'OL, mais ils m'ont accepté comme un frère et c'était formidable. Et dimanche prochain, nous sommes à Bourg-en-Bresse pour l'église là-bas. Donc ce matin, je propose une lecture, ouais, deux lectures, mais on va les faire l'une après l'autre. Dans l'Épître aux Hébreux. La semaine dernière, vous avez regardé Hébreux 6, et on va lire les deux derniers versets de Hébreux 6, et puis jusqu'au verset 4 de Hébreux 7. Et puis, on va continuer à partir du verset 23 de Hébreux 7. Hébreux 6, donc, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus établit grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. Ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchizedek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. Maintenant, le verset 23. De plus, il y a des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors, il y a plusieurs façons de regarder et d'étudier ce chapitre, le chapitre 7. On pourrait comparer le ministère de Jésus avec le ministère de Melchizedek. C'est une façon de le faire. Sinon, on pourrait comparer le ministère de Melchizedek avec le ministère d'Aaron. Deuxième façon de faire. Une troisième façon d'étudier ce texte, c'est comparer le ministère de Jésus avec le ministère d'Aaron. Et là, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais je propose que ce matin, Puisqu'on parle beaucoup d'Aaron quand on étudie l'Épître aux Hébreux, je propose que, si je peux me permettre, que nous laissions de côté Aaron et ses descendants et que nous nous concentrions sur, d'une part, Melchizédek et d'autre part, Jésus. Surtout sur l'importance de Melchizédek et sur la supériorité de Jésus à Melchizédek et à tous les autres prêtres. Donc, d'abord, on va penser à Melchizédek. Alors, un peu de... Comment dire ça? Alors, le nom Melchizédek, il y a au moins 5 façons d'écrire ce nom. Donc, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais quelle que soit la façon, c'est la même prononciation. Melchizédek. C'est mignon comme prénom. Je ne connais pas d'enfant qui s'appelle Melchizédek. On aurait pu appeler notre aîné Melchizédek Sutherland. Ça aurait été un peu compliqué, surtout pour signer un chèque. Hein? Bon, Melchizédek. Alors, nous savons, et c'est écrit ici, que son nom signifie « roi de justice ». Et il était aussi habitant d'une ville qui s'appelait Salem. Et Salem, qui ressemble au mot « shalom », signifie « paix ». Il est aussi roi de paix. Intéressant. Roi de justice, roi de paix. Il habitait à Salem. Et les historiens nous disent que Salem se trouvait là où se trouve aujourd'hui la ville de... Voilà, vous êtes tous des historiens, c'est formidable. Exactement, là où se trouve la ville de Jérusalem. Nous savons aussi que Melchizédek était un contemporain d'Abraham, le patriarche Abraham. Et nous parlons de, la Bible parle de Melchizédek dans 2 textes seulement, dans l'Ancien Testament. Genèse 14, 3 versets lui sont consacrés. Et nous lisons là ce qu'on vient de lire dans Hébreux 7, il était prêtre du Très-Haut, prêtre du Dieu Tout-Puissant, prêtre du Dieu 3 fois saint. Melchizédek donc rencontre Abraham, et il y a 3 choses surtout, 3 choses à retenir de cette rencontre. Nous n'allons pas lire les textes, mais je résume. Melchizédek donne à Abraham du pain et du vin. Intéressant. Deuxièmement, Abraham, il est béni par Melchizédek. Melchizédek prononce une parole de bénédiction sur le patriarche Abraham. Et il dit que le Dieu créateur du ciel et de la terre fasse du bien à Abraham. Si vous ne savez pas comment prier pour tel chrétien, priez de cette manière-là. Que l'Éternel bénisse, que l'Éternel fasse du bien à mon frère et à ma sœur. On a toujours besoin, pas de se faire du bien, mais que Dieu nous fasse du bien. Abraham était béni et en retour, Abraham lui a donné la dîme, c'est-à-dire 10% de tout son butin. Nous étions membres d'une église il y a quelques années et tout le monde parlait de la dîme. Ah, dimanche, on donne la dîme. Dimanche, c'est le moment de la dîme, la collecte. Et en creusant avec les uns les autres, pour eux, le mot dîme signifiait la collecte. Mais le mot dîme dans la Bible signifie 10% de ce que nous avons. C'est surtout la loi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les chrétiens donnaient souvent bien plus. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, très souvent, les croyants donnaient bien plus que 10%. En tout cas, Abraham donne 10% de tout ce qu'il avait à ce serviteur de Dieu, Melchizédek. Donc, on parle de Melchizédek dans Genèse 14, versets 8, pardon, 18, 19 et 10. Et le deuxième texte où on parle de Melchizédek, c'est la moitié d'un verset qui lui est consacré. Le psaume 110, verset 4. La moitié de ce verset parle de ce personnage historique qui s'appelait Melchizédek. Le psaume 110 fait partie de ce qu'on appelle les psaumes messianiques, des psaumes qui prédisent des événements dans la vie du Messie qui allait venir, c'est-à-dire dans la vie de Jésus, le Messie, des psaumes messianiques. Et ce psaume, ce cantique, le psaume 110, a été composé par le roi David 1000 ans avant la venue de Jésus. Et si vous connaissez les généalogies bibliques, David était ancêtre du Seigneur Jésus. Donc, chose étrange et un peu bizarre, on peut dire, c'est que, ou remarquable, c'est que Melchizedek, il est une des personnes les plus importantes de l'Ancien Testament, mais on parle de lui dans 3 versets et demi. Un homme important. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer Melchizedek avec Jésus? Comment est-ce qu'on peut comparer les ministères et le personnage? Alors, première comparaison, comme vous avez deviné peut-être dès le début, justice et paix se réunissent chez Melchizedek. Et nous savons que Jésus sera le roi, pardon, le juge juste lorsqu'il va juger les nations et les individus. Romains 2 nous dit qu'il va juger le monde selon la justice. Jésus est juste. Et Jésus, comme vous le savez aussi, on en parle très souvent à Noël, mais c'est dommage de limiter cela à Noël. Jésus est appelé le prince de la paix. Et Dieu sait que nous avons bien souvent sa paix dans notre cœur. Quand on dort mal, quand on est troublé, quand on est persécuté, quand on a des doutes, on a besoin, Seigneur, remplis mon cœur, s'il te plaît, de ta paix. Cette paix ne se trouve pas dans un flacon chez le pharmacien ou dans notre pharmacie personnelle à la maison, mais Dieu peut nous donner cette paix. Donc, le lien entre la justice et la paix, et Melchizedek était prêtre, il était roi, et Jésus aussi a servi de prêtre, il est appelé notre grand prêtre ou notre souverain sacrificateur. Jésus était roi, et Jésus aussi était prophète. Les 3 ministères de Jésus, roi, prophète et prêtre, ou prêtre, prophète et roi. Troisième chose qu'on voit, c'est la mention du pain et du vin. Abraham reçoit de la part de Melchizedek du pain et du vin. Et pas besoin de faire un tableau, on vient d'y faire allusion. La nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, il a pris du vin, il a partagé avec ses disciples. Et puis aussi, entre Jésus et Melchizedek, on ne parle pas de sa naissance, on ne parle pas de sa mort, on ne parle pas de sa généalogie, on parle de ses descendants, on ne dit rien là-dessus. Et l'auteur dit, mais c'est comme s'il vivait même aujourd'hui. Bon, on pourrait mettre ça entre parenthèses, entre guillemets plutôt. Mais nous savons que Jésus, il est né, mais Jésus n'a pas commencé à exister, à vivre quand il est né, lors de l'incarnation. Il a toujours existé, Jésus. Et nous savons qu'il n'aura pas de fin, parce que Jésus va vivre éternellement. Et on va revenir. Jésus existe depuis toujours, et Jésus existera pour toujours. Tous les théologiens s'accordent pour dire que Melchizedek est un genre d'image de Jésus. Ils emploient le mot « un type de Jésus ». Tout le monde n'aime pas ce mot « type » parce que c'est un type, on n'aime pas toujours parler d'un type en langue française, mais un type de Jésus, ou alors une figure anticipée de Jésus, ou un autre mot, une préfiguration de Jésus. Certaines personnes disent, mais c'était peut-être une christophanie. Désolé pour tous ces mots. Hein. Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus avant son incarnation. Il y a 2 ou 3 exemples de cela dans l'Ancien Testament. Une christophanie. Alors, est-ce que c'est de Jésus qui est apparu à Abraham? Moi, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Mais on parle de Melchizedek quand même comme un personnage à part et comme un personnage historique. Un homme qui avait un ministère reconnu par le patriarche Abraham. Genèse 14, et reconnu par le roi David, le psaume 110. L'importance de Melchizédek. Maintenant, je propose qu'on va un peu plus loin et qu'on parle de la supériorité de Jésus, notre grand prêtre. C'est surtout dans la deuxième lecture que nous avons faite où il est question de la supériorité de Jésus. Alors, rapidement, Jésus vit éternellement. Il n'avait pas de début, il n'aura pas de fin. Melchizédek, tôt ou tard, même si on ne sait pas quand et où, Melchizédek est mort. Deuxième chose, Jésus est le seul sauveur. Il n'y en a pas 36. Jésus est le seul sauveur. Son salut est parfait. Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est important de connaître ce verset. Son salut est parfait. Jésus est le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Même si tout le chemin mène à Rome, et je me pose des questions à ce sujet-là, tout le chemin ne mène pas à Dieu. Jean 14, 16, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Cinquième chose, Jésus prie pour les chrétiens. On l'a lu. Il prie pour vous. Il prie pour nous. Il y a une cinquantaine d'années, Alfred Kuhn, un chrétien strasbourgeois, a écrit plusieurs chants, dont un qui s'appelle « Sur le chemin va sans peur ». Et voilà quelques extraits. « Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie. Et il prie pour toi. » Je crois que c'est dans Jérémie 1. Et il y a un autre couplet où il est question de perdre quelqu'un de cher en chemin. Et ceux qui connaissent la vie d'Africune savent qu'il a composé ce chant quelque temps après le décès de son fils unique. Et il fait allusion à cela dans ce chant, sans donner des détails, mais il parle du réconfort que Jésus peut apporter à quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, de précieux. Jésus prie pour les chrétiens. On va ouvrir une petite parenthèse. Jésus est appelé notre grand prêtre ou notre souverain sacrificateur. Voilà une photo prise 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Le Dauphiné libéré était fort à l'époque. Voilà un grand prêtre avec ses habits. Alors, trois choses au sujet de ses habits. Il y a d'abord ce qu'on appelle le pectoral. Sur sa poitrine, quatre rangées de trois pierres précieuses. Et sur chaque pierre, il y avait le nom d'une tribu, 12 tribus, le peuple de Dieu, et sur la poitrine du prêtre. Sur les épaules du prêtre, il y avait une pierre précieuse à gauche et une à droite. À gauche, ça c'est votre gauche, c'est ma droite. Je sais distinguer ma droite de ma gauche, pour vous rassurer. Sur la gauche, il y avait le nom de 6 tribus d'Israël. Sur la droite, le nom de 6 tribus d'Israël. Sur la tête, un bonnet, presque un bonnet d'évêque, un bonnet ou un turban. Et on appelait ça une tiare. Et sur ce bonnet, il y avait inscrit les mots suivants. Sainteté à l'Éternel. Ou si vous préférez, Dieu est saint. Ou si vous voulez, pour le prêtre, je dois être saint pour entrer dans la présence de l'Éternel. Alors, on peut voir, je pense, assez facilement, les liens ou les parallèles entre les habits du prêtre d'il y a 5000 ans et le ministère de Jésus. Sur la poitrine de Jésus, ou si vous préférez, sur le cœur de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Le nom de chaque membre de son peuple. Vous, moi, on ne mérite pas. Mais sur le cœur de Jésus, il y a le nom de tous ceux qui lui appartiennent. Sur ses épaules, idem, les noms de tous ceux qui lui appartiennent. Il nous porte sur ses épaules. Un peu comme l'image du bon berger qui porte une brebis ou un agneau sur ses épaules. Et vous savez bien que Jésus, il a les épaules larges. Et il peut nous porter tous. Tous les milliards de chrétiens qui ont existé et qui existent et qui existeront. Il nous porte sur ses épaules. Et puis, bien sûr, troisièmement, sur sa tête et dans la vie de Jésus, un homme parfaitement saint. Parfaitement saint. Ce qui explique pourquoi il a pu s'offrir lui-même en sacrifice. Les autres prêtres devaient offrir un animal. Mais Jésus s'est offert lui-même. Comme il a dit lui-même, « Je suis le bon berger, Jean 10, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus était parfaitement saint. Numéro 6, Jésus aussi était irréprochable. Même le jour de son tribunal, son juge a dit, « Mais je ne trouve rien en lui. Il ne mérite pas la condamnation. » Même celui qui l'a trahi, Judas, a dit, « Mais j'ai trahi du sang innocent. » Tout le monde savait, mais Jésus était parfait, irréprochable. C'est pour ça qu'il a pu mourir pour nos péchés. Sans souillure, sans péché. En autre mot, il était parfait. Chose curieuse, Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Il fréquentait des pécheurs. Il touchait des pécheurs. Il était touché par des pécheurs. Mais Jésus est resté sans péché, sans contamination. Il était parfait. Ce qui veut dire que sa mort, pour nous, était une mort une fois pour toutes. Sa mort expiatoire était suffisante pour nous racheter. Et puisque j'ai fait allusion tout à l'heure au berger, voilà deux images du bon berger qui porte ses brebis sur ses épaules. Quand vous avez du mal à porter ce que vous devez porter, avant déchargez-vous sur le Seigneur Jésus. Il portera à votre place ce que vous devez porter et ce que vous devez porter. Jésus, le grand prêtre, Jésus qui s'est donné comme sacrifice pour nos péchés, une fois pour toutes. Nous ne parlons jamais du sacrifice de la scène, comme d'autres parlent du sacrifice de la messe. La scène, c'est un repas de commémoration. C'est que du pain, c'est que du vin, que du jus de raisin. Rien de sanctifié, rien de spécial. On achète au supermarché et on donne le pain aux oiseaux, aux enfants, aux canards. Là où on habitait avant, on habitait auprès d'un fleuve. Et un des anciens, à la fin de chaque culte, partait avec le pain qui restait pour donner aux canards. Est-ce que c'était un crime, un péché? Bien sûr que non, c'était que du pain. La mort de Jésus suffit. Ce qui veut dire qu'on peut résumer ce texte par ces cinq phrases. La prêtrise de Jésus, grand prêtre. Les prières de Jésus, il prie pour nous. La perfection de Jésus et le pardon que Jésus nous offre. Et j'ai ajouté le mot la proximité de Jésus. Vous savez, Jésus a été tenté en tout point, comme nous, sans connaître le péché, sans craquer devant la tentation. Il a toujours résisté. Je n'avais pas le temps, je voulais mettre une photo du roi Charles III, le roi de la Grande-Bretagne. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le roi Charles, lorsqu'il était le prince Charles, a été détesté par la majorité des Britanniques. Haï, je n'exagère pas, par la majorité des Britanniques. À cause de, alors moi je ne prends pas position, je ne dis pas que c'est ma pensée, hein, à cause de la façon dont il a traité la princesse Diana. Mais, depuis 5 ans, même pas 5 ans, depuis 2 ans, les choses ont radicalement changé. parce que le roi Charles III est malade. Il a osé dire « j'ai un cancer ». Il a osé dire « je suis en traitement pour mon cancer ». Alors, personne ne sait exactement de quoi il s'agit, mais on n'a pas besoin de savoir. Et il va rendre visite à des gens malades de cancer dans les hôpitaux. Et tout d'un coup, les gens disent « il est bien après tout ». Il nous comprend. Je suis malade et il parle de sa maladie et il compatit, il sympathise avec tous ceux qui sont malades. Il les comprend, il les connaît, il le dit. Il ne dit pas « je prie pour vous », mais il sait que plein de gens prient pour lui, il en a besoin. Mais les gens se rendent compte, mais il est proche de nous finalement parce qu'il souffre comme moi. Il a la même maladie que mon père, mon enfant, ma grand-mère, ma belle-mère, etc. La proximité du roi. Eh bien, bien sûr, Jésus est d'autant plus, plus proche. La proximité de Jésus. Il compatit. Il nous comprend. Il nous connaît. Il sait ce qu'on peut supporter. Il sait de quoi nous sommes faits. Et c'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui et lui dire tout ce qu'on a sur la patate, tout ce qu'on a dans le cœur. Et on peut se décharger sur lui. Et il nous comprend, il nous connaît. La supériorité de Jésus. Je termine juste pour vous donner le témoignage d'Elisa Hewitt. Vous voyez, née en 1851, décédée juste après la fin de la Première Guerre mondiale en 1920. Elisa Hewitt était une jeune femme chrétienne. Elle aimait le Seigneur. Elle était professeure dans un lycée. Tous les élèves l'aimaient, à part un. Et cet élève qui ne l'aimait pas, parce qu'il était droite, elle était une bonne prof, elle était pédagogue, ce garçon l'a attaqué, l'a agressé. Mais il y a 150 ans, vous savez, les profs se font agresser tous les jours en France. Hier, avant-hier, deux jeunes femmes profs qui devaient surveiller une épreuve du brevet ont été agressées sexuellement par les jeunes dans sa classe. Et elles se sont levées, elles sont sorties, et deux hommes, dont un membre de notre famille, viennent pour surveiller ses enfants. Cette femme-là, il y a 150 ans, a été agressée, battue par un jeune homme, et son dos était tellement abîmé que pendant des années, elle est restée alitée, au lit. Elle ne pouvait pas se lever, et beaucoup de douleurs. Il n'y avait pas les médicaments d'aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, quelques années, elle a décidé de mieux connaître la parole de Dieu et d'approfondir sa relation avec Jésus, son sauveur bien-aimé. Après un temps, elle a accepté sa situation. Ça, c'est difficile, mais elle a accepté. « Seigneur, je suis là, dans mon lit, et je veux lire ta parole, je vais prier. » Et puis, elle a commencé à écrire des poèmes. Et quelqu'un vient la voir pour dire, « Écoute, si tu veux, je vais mettre ces poèmes en musique pour faire des cantiques. » Et puis, elle a rencontré une certaine Fanny Crosby. Alors, Fanny Crosby, c'était aussi une chrétienne de son époque qui était aveugle à cause d'une erreur médicale quand elle était toute petite. Et Fanny Crosby, elle a écrit des chants que nous chantons. Par exemple, « À Dieu soit la gloire, j'ai l'assurance de mon salut. » Ces deux femmes sont devenues très proches. Puis après quelques années, Elisa a pu reprendre le travail et reprendre son travail ou son ministère à l'école du dimanche, ou au culte de jeunesse, comme nous disons, nous, aujourd'hui, pour enseigner la parole de Dieu à des enfants. Pendant toutes ces années où elle était seule et où elle souffrait, elle pourrait dire aujourd'hui, si elle était là, qu'elle remerciait Dieu pour les bénédictions de passer du temps avec son Seigneur, de déposer à ses pieds ses doutes, ses douleurs, ses souffrances, ses interrogations. Et elle s'est rendue compte, mais Jésus est un Dieu qui est tout proche. Il me connaît. Il me comprend. Il m'aime. Elle était consciente de la présence de son Sauveur bien-aimé. Elle était consciente de la compassion de son Sauveur bien-aimé. Elle était consciente du réconfort que son Sauveur bien-aimé pouvait lui apporter. Dieu est un Dieu qui bénit. Jésus est un Sauveur qui nous connaît, qui nous comprend et qui compatit avec nous. Et Dieu nous invite à compter sur lui, à compter ses nombreuses bénédictions, et il nous invite toujours à venir au trône de la grâce afin d'obtenir le secours, la force, la sagesse, les réconforts, le zèle, etc., dont nous avons besoin. Profitons-en, approchons-nous du trône de la grâce et nous allons voir quel Sauveur merveilleux nous possédons. Quel grand Sauveur bien-aimé nous avons. Alors, les amis, aimons-le, adorons-le et vivons cette semaine pour lui. Prions. Seigneur Jésus, merci car tu es un Sauveur bien-aimé. Tu es notre Sauveur merveilleux. Tu nous as offert un salut et une vie formidable. Nous te remercions pour ta proximité. Nous te remercions pour tes prières. Et nous voulons te prier de nous pardonner lorsque nous nous bataillons tout seuls dans notre coin, sans compter sur toi, sans compter sur nos frères et sœurs qui pourraient prier pour nous, nous écouter, nous aider. Seigneur, aide-nous à profiter au maximum de cette invitation à venir au trône de la grâce. Merci pour ta grâce et merci pour le secours que tu es toujours prêt à nous donner. Merci pour Jésus, notre grand prêtre, notre Sauveur si merveilleux. Amen.